Par rapport aux premières questions que je vous ai posées, qui tournaient autour de la représentation du féminin, dans le spectacle, il y a les Nymphes des Bois, il y a la princesse étrangère. Peut-on dire qu'à travers ces personnages, eux aussi féminins, vous explorez plusieurs prismes, plusieurs types de féminité? Parce qu'actuellement, la représentation du masculin et du féminin, notamment au cinéma ou dans les spectacles vivants, c'est extrêmement rigoureux.
Hein. Oui, c'est sans doute trop rigoureux. Voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est dans une époque qui aime les choses simples et binaires. Et c'est une erreur, car les êtres humains ne sont pas simples et binaires. Alors très simplement, Olivier et moi, je pense, on a une lecture des contes. C'est pas un conte de fées, hein, c'est un conte.
Mais à la fois Ondine et la petite sirène, en fait, il y a plusieurs contes qui se mélangent.
Voilà, il y a au moins trois sources littéraires pour Dvorak. Mais le propre dans les contes, c'est, à mon avis, d'essayer d'arriver à lire les contes en cherchant le féminin et le masculin partout. C'est-à-dire que quand on est un adulte mature, à mon avis, on doit pouvoir lire La Petite Sirène en cherchant le féminin dans le prince, le masculin dans La Petite Sirène. Quand on lit La Princesse étrangère, on doit chercher en quoi sa féminité est une féminité de complément par rapport à, non pas la réalité, mais l'idéal de féminité de La Petite Sirène. Je m'excuse, hein, ça commence à devenir un petit peu technique, mais pourtant c'est la vérité. Et on peut même pousser jusqu'à plus loin à Jezibaba la sorcière. Dans la culture en fait occidentale, depuis la fin du Moyen-Âge, la sorcière c'est la féminité problématique, puisque la sorcière c'est la femme qui n'a pas rentré dans le rang, qui ne s'est pas mariée, qui ne s'est pas soumise au rôle de femme au foyer qu'on l'a signé, d'où le fait qu'il y a cette image inconsciente que nous avons toutes dans notre inconscient, qui est que la sorcière, c'est la vieille dame avec son chat, d'accord ? Mais en fait, dans la sorcière, il y a paradoxalement le cœur du féminin. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, puisque la transformation de Rusalka, c'est celle que nous avons choisie comme sorcière, c'est-à-dire la plus banale, la plus quotidienne des féminités, la femme de ménage de la piscine. Et pour nous, c'est la femme de ménage de la piscine qui n'a l'air de rien, justement, physiquement, qui va expliquer à Rusalka les codes de la féminité.
Donc il y a la vision de l'ouvrage, puis après il y a la vision artistique de ce que vous allez montrer sur le plateau. Donc tout ça c'est bien en amont, c'est très réfléchi, très documenté, vous venez de nous l'expliquer. Comment ça se passe après lorsque les voix arrivent? Parce que les voix vous ne les choisissez pas, hein, c'est Frédéric Rousse qui les choisit. Et puis c'est quand même les voix, les chanteurs et les chanteuses qui vont donner corps, qui vont donner la vie à tout ça.
Il n'y a pas de véritable surprise, on peut après aimer être plus sensible à tel ou tel timbre. Ce que la voix révèle souvent lorsqu'elle s'exprime dans la musicale, elle révèle une partie quand même du tempérament du chanteur. C'est aussi pour ça que nous aimons faire les costumes et signer les costumes. Ce n'est pas qu'on a vraiment besoin d'une charge de travail supplémentaire, c'est aussi que le costume, le dialogue autour du costume, le temps de l'essayage est un moment très privilégié, un moment de fragilité aussi, évidemment, pour le chanteur, pour évoquer le projet, pour évoquer le caractère du personnage, pour évoquer la vision qu'il en a, parce qu'il a le droit d'arriver avec une vision, il a quand même travaillé, préparé avant de venir, et la confrontation pacifique à notre propre conception du personnage et de la manière dont il va être inséré dans le concept de mise en scène. Donc, musical comme essayage sont importants. Le physique, souvent, évidemment, les distribution étant constituée souvent 2 ou 3 ans avant, on a la chance de réfléchir en règle générale, nous, au costume, en ayant un physique en tête. Bon, après, les vicissitudes du métier font qu'on peut être amené à changer ou pas en cours de projet, ou alors que les costumes ont déjà été déposés, une partie de la distribution, parce qu'un chanteur va être malade, un chanteur finalement se retire de la production parce qu'il ne veut plus la faire, ou a une proposition autre qu'il préfère. Donc on peut avoir parfois, et ça nous est déjà arrivé, la mauvaise surprise d'avoir un chanteur ou une chanteuse qui arrive avec un physique très différent. Je dois dire que là, dans ce projet précis de Rusalka, on a essayé d'être à la fois autonome, parce qu'on sait depuis le départ que c'est un projet qui est fait pour 4 coproducteurs et ensuite une maison d'accueil, donc il y a quand même 5 théâtres. Donc c'est très difficile de savoir, au fond, si on va avoir 5 fois le même physique pour tel ou tel chanteur.
Vous allez avoir 5 distributions différentes.
Oui. Quasiment, oui. Donc ça crée évidemment une dimension un petit peu particulière. Après, c'est vrai que, notamment pour le rôle-titre, pour la Rusalka, on a créé 2 costumes qui ne sont pas des costumes faciles à porter, donc le physique peut avoir. Mais ça nous est déjà arrivé. Une fois encore, on peut adapter, on peut changer surtout. Je crois que, alors après, ça devient un coût supplémentaire pour les théâtres, mais je trouve que plutôt que d'essayer absolument de faire rentrer un corps dans un costume qui n'est vraiment pas fait pour lui, un corps masculin ou féminin, parce qu'un costume, enfin, c'est aussi une idée. Donc on peut traduire cette idée par une autre forme. C'est ça qui compte en fait. Enfin, et il faut avoir la souplesse après pour les maisons en effet de dire bon très bien, on va faire un autre costume. Là en l'occurrence par exemple, on n'a pas la même Roussalka que celle qui était indiquée au départ. On considère que la Roussalka qui va créer le spectacle à Avignon n'a pas besoin de la perruque qu'on avait imaginée au départ pour la première distribution, la première chanteuse qui a été distribuée. Après c'est évidemment dans le temps des répétitions que là véritablement le corps du chanteur vient à s'exprimer, vient ajouter à la voix portée, chantée, dont Jean-Philippe a déjà parlé, et évidemment qu'en fonction ensuite de ce corps bougeant sur scène, on adapte notre mise en scène, même si elle est extrêmement écrite, dans le sens où on intègre aussi justement ce corps et les propositions de l'artiste. C'est-à-dire que, comme le directeur musical, le chef d'orchestre vient avec une certaine structure et une certaine idée de ce qu'il envisage pour la présentation musicale de Roussalka, évidemment qu'en fonction des voix, en fonction des couleurs, il va aussi s'adapter. Nous, on fait pareil.
La production va être créée ici même, à Avignon. Il y a une exposition qui est un peu le making-of, les photos de tournage de la vidéo que vous avez réalisée sur le stade nautique, sur la route de Marseille. Lorsque vous faites une création d'une ville en particulier, vous tenez vraiment à vous inscrire, à vous imprégner du territoire, puisque les costumes aussi ont été réalisés à Avignon.
Oui, pour Olivier et moi, c'est essentiel qu'à chaque fois, la production soit inscrite dans son territoire. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire du tourisme, hein. C'est parce que quand on a commencé, il y a quelques années, à peaufiner ce qu'on pourrait appeler notre outil de narration, on s'est rendu compte de cette chose très simple et très humaine, que quand vous êtes dans une salle d'opéra, que la représentation d'opéra commence, et qu'à un moment dans le spectacle, assez tôt, arrivent des vidéos, et que les gens dans la salle se disent « Ah, mais c'est tourné chez nous ! Ah, mais je connais la piscine !» Eh bien, le rapport au spectacle en devient tout de suite immédiat, changé, direct, non intellectualisé. Ça a l'air fou de dire ça, mais évidemment que Olivier et moi sommes des gens très intellectuels. Notre travail est de faire passer des émotions en ne les intellectualisant pas, et cette vidéo in situ en fait partie.
J'ajouterais aussi que, évidemment, le rêve des directeurs d'opéra, et certainement de la plupart de ceux qui, évidemment, nous invitent à venir travailler dans leur théâtre, c'est que la population ou que la ville vienne au théâtre. C'est normal. Nous, on aime bien cette idée dans cet échange. Hein, on ne refuse pas du tout cet échange-là, bien entendu. Mais on aime bien aussi que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'opéra qui vient déborder sur la ville. Et en intégrant ce jeu un peu de miroir que vient de décrire Jean-Philippe dans notre travail, on a l'impression aussi finalement que c'est pas seulement la ville qui entre dans le théâtre, mais c'est aussi le théâtre qui vient déborder sur la ville. Là par exemple, le décor, c'est rien, c'est un tout petit détail, mais le décor souvent chez nous va au-delà du rideau de fer, parce que justement on aime qu'il déborde dans la salle. Voilà, une des premières réflexions, on peut revenir vers l'architecture à ce moment-là, qu'on s'est faite quand on a commencé à travailler dans l'univers de l'opéra, c'est que en France le terme opéra représente aussi bien ce genre musical que le théâtre dans lequel il est représenté. Et donc le bâtiment et le rapport du bâtiment, de la salle, du bâtiment à la ville nous intéresse beaucoup. Vous parliez donc de cette exposition qui nous a été proposée ici par l'Opéra Grand Avignon. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est que justement, enfin, elle est dans les couloirs, elle est dans les espaces de circulation du théâtre, et que donc c'est une partie aussi du spectacle qui se trouve en dehors de la scène. Et ça nous intéresse beaucoup.
Rendez-vous vendredi alors à l'Opéra d'Avignon.
Exactement, que la ville vienne donc dans l'opéra, puisque la ville elle-même est déjà dans l'opéra.
Et prenez le bonnet et la serviette.